ou encore des capteurs pour véhicules blindés. Ainsi, en décembre 2025, le groupe de métallurgie Aubert et Duval a exporté vers Israël des tubes à canon, des éléments a priori destinés au Sigma 155 ROM, une artillerie utilisée uniquement par l'armée israélienne pour des tirs de précision longue portée sur le sol libanais, alors même que la France prétend ne pas exporter d'équipement risquant d'être utilisé à Gaza, en Cisjordanie ou au Liban. Le rapport examine aussi le rôle des aéroports français censés exercer leur devoir de vigilance sur de telles exportations et donc vérifier qu'elles ne contreviennent pas au droit international, notamment au traité sur le commerce des armes. Le groupe ADP, anciennement Aéroport de Paris, est pointé du doigt pour avoir laissé transiter au moins 117 cargaisons de composants du chasseur furtif F-35 en provenance de bases militaires américaines et à destination de la base israélienne de Nevatim via Paris Charles de Gaulle entre avril et octobre 2025. Or, le F-35 Lightning II est un avion de combat utilisé par Israël à Gaza et au Liban. Et les pièces expédiées incluent un système de ciblage électro-optique permettant une vision infrarouge pour repérer les cibles ou encore un casque de réalité augmentée pour les pilotes doté d'un écran affichant les objectifs. Pas vraiment des armes défensives. Pour Patrick Bouvray, président de l'Observatoire des armements, ces révélations rappellent qu'il est urgent de mettre en place une commission parlementaire pour établir enfin un état des lieux transparent sur la coopération entre la France et Israël, tant sous l'angle des importations que des exportations. Voilà. C'est un nouveau point, effectivement, sur un sujet dont on vous a déjà parlé, mais les ventes d'armes, visiblement les ventes d'armes de la France à Israël, alors qu'Israël commet un génocide, continuent. Voilà. On va changer de sujet,
oui.
Mais on va rester pas en France, mais en Europe.
Oui.
Et c'est Claire-Lise qui va vous parler, mais elle va vous le dire elle-même.
Je veux rester dans le monde même, parce que Je vais vous parler de la Journée mondiale des réfugiés, donc, qui sera célébrée le samedi 20 juin sous le thème « Solidarité avec les réfugiés ». Donc la Journée mondiale des réfugiés a lieu chaque année, le 20 juin, pour honorer la force et le courage des personnes contraintes de fuir leur pays en raison de conflits ou de persécutions et offrant une période prolongée pour des activités éducatives, de plaidoyer, de bénévolat et de collecte de fonds. Donc il y a la Journée mondiale des réfugiés et il y a la Semaine mondiale des réfugiés sur la même période qui permet justement diverses manifestations. Donc le thème de 2026, hein, cette année, c'est la solidarité avec les réfugiés en lien avec le 75e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Donc cette convention établit le droit de demander l'asile et le principe de non-refoulement, garantissant que personne ne soit renvoyé dans un lieu où sa vie ou sa liberté serait menacée. C'est important parce que je vais en reparler dans la deuxième partie de mon intervention sur ce qui se passe actuellement en Europe. Donc la Semaine des réfugiés, et voilà mon ordinateur, il m'embête encore, adopte également le thème « Courage », mettant en avant la résilience et la détermination des réfugiés qui reconstruisent leur vie après un déplacement. Donc, les objectifs de la Journée mondiale des réfugiés, en fait, c'est sensibiliser le public aux réalités vécues par les réfugiés et aux causes profondes des déplacements forcés. Promouvoir la solidarité et l'inclusion des réfugiés dans les sociétés d'accueil. Mettre en lumière les contributions positives des réfugiés dans leur communauté. Encourager des solutions durables, telles que le rapatriement volontaire, la réinstallation ou l'intégration locale. Et donc, pour participer, il y a plusieurs actions qui sont possibles, hein, pour montrer son soutien. Alors, porter le ruban de la solidarité du Haut Commissariat aux réfugiés et inviter ses proches à faire de même. Partager des photos et messages sur les réseaux sociaux avec le hashtag, hashtag with refugees. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Je vois.
Non, j'ai rien dit.
Je te vois sourire.
En anglais, c'est refugees, effectivement, ouais, mais bon, il n'y a pas de problème.
Faire un don pour soutenir le travail du Haut Commissariat aux réfugiés auprès des réfugiés. Donc, vous pouvez effectivement faire un don. Et aussi participer à des événements locaux, des ateliers éducatifs ou d'autres types d'activités ou de journées. Donc, d'habitude, nous, avec le groupe Amnesty Évreux, on fait une émission spéciale Fréquence Droits Humains sur le thème de la Journée Mondiale des Réfugiés. Cette année, on était un petit peu pris par le temps, puis nos amis de la radio aussi, puis on a laissé filer le temps. Et donc, du coup, on ne va pas faire cette émission parce qu'on ne veut pas la bâcler. Mais on a le projet de vous reproposer une émission Fréquence Droits Humains qui parlerait des parcours d'exil et qui serait plutôt à la rentrée de septembre, de voir voilà avec nos amis de la radio, pour refaire une émission en invitant les gens à parler de leur parcours d'exil et peut-être aussi en invitant les gens qui y avaient eu à Bernay, une exposition avec des photos et des récits. Ah oui. Voilà. Donc, on voudrait les contacter aussi pour pouvoir revoir avec les gens qui ont participé sur cette action, parce que c'était vraiment très, très intéressant. Et je voulais mettre en parallèle, parce qu'effectivement, on parle de la Journée mondiale des réfugiés, où on fête les réfugiés, etc. En parallèle avec ce qui se passe au niveau européen, puisque vous savez qu'il y a le pacte asile-immigration qui est donc c'est toute une série de lois au niveau du Parlement européen qui sont adoptées depuis 2020, puis en 2021, puis en 2023, puis en 2024, avec effet actif de toutes ces décisions à partir du 12 juin 2026. Oui. Et donc, à partir du 12 juin, la Commission européenne, le pacte sur la migration et l'asile, donc c'est définitivement adopté depuis le mois de mai 2024, et l'essentiel de ces dispositions s'applique depuis le 12 juin 2026. Donc, ce paquet législatif vise à remédier à plusieurs failles de la politique d'asile européenne, lenteur et hétérogénéité des procédures, déséquilibre entre certains États membres, difficulté à identifier les personnes arrivant aux frontières extérieures, mouvements secondaires et faible exécution des décisions de retour. En fait, en gros, ce pacte renforce les contrôles aux frontières, harmonise davantage les procédures d'asile et organise un mécanisme de solidarité entre les États membres. Alors, solidarité, ça veut dire qu'on se répartit les réfugiés. Ce n'est pas de la solidarité envers les réfugiés.
Non, non.
C'est de la solidarité entre les États qui financent.
C'est ça.
Il faut bien entendre ce mot où il est. Et donc, ça ne supprime pas le droit de demander l'asile, mais ça modifie la manière dont certaines demandes pourront être filtrées, accélérées ou traitées à la frontière et pas en Europe. Donc, l'objectif de ce pacte, ça vise à réformer la politique migratoire de l'Union européenne, mais surtout, ça vise vraiment, vraiment, vraiment le plus possible à durcir les conditions d'accès au territoire européen pour les migrants, et notamment les migrants subsahariens ou les migrants qui arrivent d'Europe de l'Est.
Oui.
Voilà. Et c'est pareil au niveau des pays d'Amérique du Sud par rapport aux États-Unis. Voilà. Donc, mais là, on est en Europe. Donc, du coup, les migrants jugés a priori peu susceptibles d'obtenir une protection internationale seront soumis à une procédure accélérée de demande d'asile à la frontière. Pourront plus pénétrer. Sont concernés les ressortissants de pays présentant de faibles taux de reconnaissance de la protection internationale, moins de 20% au sein de l'Union européenne, ainsi que les personnes représentant un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public. Donc on tient plus compte de l'histoire réelle de ce qu'ont vécu les gens, mais des taux, De, oui, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup,
les gens deviennent des statistiques.
Et puis, surtout, c'est pas des agents formés qui vont décider tu passes ou tu passes pas au niveau du filtrage. Ça peut être des gens de la police, hein, aux frontières. Et certains ont quand même des préjugés. Donc, voilà, si ce sont des gens qui ont des préjugés racistes ou qui ont des préjugés homophobes, les gens vont... Enfin, le filtrage va quand même être vraiment particulier.
Il va être très orienté, ça, forcément.
Voilà. Donc, la Commission européenne fixe le nombre maximal de demandes de protection internationale que chaque État membre est tenu d'examiner dans le cadre de la procédure à la frontière. Donc, au-delà de ce plafond, les demandes concernées sont alors orientées vers la procédure d'asile ordinaire sur le territoire. Pour la France, un maximum de 1230 demandes doivent être examinées dans le cadre de la procédure à la frontière la première année, c'est-à-dire du 12 juin 2026 au 12 juin 2027. C'est-à-dire que donc c'est un quota. Mmh. On ne s'occupe pas des gens qui vont arriver. C'est vraiment terrible. Et les personnes dont la demande d'asile est rejetée au terme d'une procédure à la frontière doivent être renvoyées dans leur pays d'origine ou un pays de transit sous 12 semaines. Pour les demandes rejetées dans la procédure ordinaire, le pacte impose également que la décision de retour soit prise en même temps que la décision négative d'asile. Voilà. Et donc, la procédure de filtrage prévoit un contrôle d'identité, de sécurité, de santé et de vulnérabilité. Elle s'appuie en partie sur le renforcement d'Eurodac, donc c'est une base de données, notamment biométrique des migrants sur le sol européen. Et aux empreintes digitales déjà collectées jusque-là, vont désormais s'ajouter des images faciales, la reconnaissance faciale, ainsi que des informations telles que le nom, le prénom, la nationalité, la date et lieu de naissance. Des informations sur les décisions d'éloignement, de retour ou de réinstallation sont par ailleurs intégrées afin de mieux identifier les personnes introduisant plusieurs requêtes et de déterminer l'État membre responsable de leur demande d'asile. L'âge minimum pour la collecte des données est abaissé de 14 ans à 6 ans. Afin notamment de retrouver des enfants disparus susceptibles d'avoir été victimes de la traite des êtres humains ou d'exploitation sexuelle. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce pacte asile-migration, mais vraiment le filtrage des personnes, le fait de c'est plutôt pour lutter contre l'immigration irrégulière que pour faciliter l'accueil des migrants qui viennent demander asile. Hein. C'est plus une chasse aux migrants qui arrivent sans papier.
C'est tout à fait révélateur pour l'Union européenne d'une volonté encore plus ferme de fermer ses frontières, en fait.
C'est ça.
Donc voilà, on veut pas voir ces gens-là, quoi. Il faut pas qu'ils viennent chez nous, hein. Ce sont pas des gens désirables. Tu peux peut-être dire un mot quand même, juste avant qu'on passe la deuxième pause musicale, dire un petit mot sur la liste des pays qui sont considérés comme sûrs où on peut renvoyer les gens.
Déjà, il y a les pays qui vont accueillir, enfin, qui sont des États tiers sûrs, qui vont accueillir aux frontières. Alors, j'avais la liste tout à l'heure. Je sais qu'il y avait le Maroc, l'Égypte, la Serbie, le Kosovo, l'Albanie. Enfin, vraiment, toute une série de pays où j'ai pas forcément envie d'aller passer mes vacances.
Non, mais des pays qui sont réputés pour être respectueux des droits humains fondamentaux, c'est
ça.
C'est clair.
Voilà. Donc, c'est ces pays-là qui seront des... La Colombie aussi, tiens. Oui. Oui. Donc, c'est des pays qui se sont portés volontaires pour accueillir aux frontières les personnes. Voilà. Et donc, ça laisse quand même présager des choses
particulièrement
difficiles. Et parce que les gens seront pas libres d'aller et venir hein, dans ces pays. Ils seront dans des camps.
C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Donc, ça n'augure rien de bon, mais ça n'empêchera pas effectivement de continuer à lutter pour leurs droits de toute manière. Si tu me laisses une toute petite minute avant la pause musicale,
vas-y.
Je voulais juste dire un petit mot, puisqu'on parle de gens qui se déplacent. Et là, ça ne concerne pas un demandeur d'asile, mais ça concerne un arbitre de foot. C'est la Coupe du Monde de foot en ce moment.
J'avais juste une petite phrase à traduire tout à l'heure quand tu dis « je vais prendre la parole ». Le langage, ça s'apprend. La parole, ça se prend.
C'est ça.
Voilà.
Donc, au niveau du mondial américain, il y a un arbitre d'origine somalienne qui s'appelle Omar Abdulkadir Hartan, qui a été désigné meilleur arbitre africain en 2025, arbitre de foot. Il a été refoulé lors de son arrivée à l'aéroport de Miami le 6 juin. Motif, il a été jugé proche de membres présumés d'organisations terroristes alors qu'il disposait d'un visa en bonne et due forme pour venir aux États-Unis. Et ce que dit l'article, Donald Trump n'a eu de cesse d'attaquer la Somalie, tour à tour qualifié de... Alors ça, c'est des citations exactes du président américain. Tour à tour qualifié de pays de merde, de pire pays au monde, de pays qui pue et d'où ne viendraient que des déchets. Voilà ce que dit le président américain par rapport à la Somalie. Alors, pays de merde, pire pays du monde, pays qui pue et d'où ne viennent que des déchets. On se demande si ce n'est pas un autoportrait de ce propre président des États-Unis qui s'appelle Donald Trump. Franchement, en arriver à des propos aussi injurieux, c'est tout à fait insupportable. Voilà. On va passer à la deuxième pause musicale. On est déjà en retard et on se retrouve juste après. De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite et la fin de notre émission, puisqu'on approche du terme. On vient d'écouter comme deuxième morceau aussi un groupe qui est passé à sa sonne à la porte, donc pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant. Ça s'appelle The Deep, et le titre du morceau, je l'avais noté quelque part, je vais vous le dire tout de suite. C'est un groupe américain, The Deep, ça je sais. Ça s'appelait Slow Sipper, voilà. Et donc,
est-ce que je peux redonner mes états sûrs,
oui,
juste avant,
oui,
que tu commences?
Oui, oui,
j'ai retrouvé la liste avec mon petit ordinateur là,
c'est
qui
ça,
saute de ligne.
C'est ça. Puis il y avait pas
donc,
tout.
Donc les pays, donc ils appellent ça des pays tiers sûrs qui pourraient accueillir les demandes d'asile donc à l'extérieur des frontières. Donc 7 pays. Le Bangladesh, la Colombie, l'Égypte, l'Inde, le Kosovo, le Maroc et la Tunisie, auxquels s'ajoutent 8 États candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Je pense que dans le lot, il doit y avoir aussi la Turquie, qui reçoit beaucoup d'argent de l'Union européenne pour retenir dans des camps de réfugiés un certain nombre de réfugiés, notamment iraniens, qui n'arrivent pas à arriver en France parce qu'ils sont retenus en Turquie. Voilà, dans des camps de réfugiés, avec ce qu'on peut imaginer de la liberté en Turquie.
Oui, c'est ça, en Turquie, et puis au Bangladesh, comme tu disais, enfin, etc.
Bah, oui, enfin, vraiment,
c'est hallucinant, quoi, considérer effectivement que des gens puissent vivre en respectant leurs droits dans ces pays-là, ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur, mais enfin, on voit bien à quel point ce discours est démagogique.
L'Europe est prête à payer ces pays pour recevoir les migrants qui traitent les demandes d'asile à l'extérieur des frontières, plutôt que d'accueillir dignement les migrants qui sont en France et pour lesquels il n'y a pas assez de logements, de centres d'hébergement, etc., etc.
C'est ça.
Etc.
Et puis encore une fois, vouloir réagir comme ça par rapport au phénomène migratoire, c'est de toute façon voué à l'échec, parce que là, on est en train de vivre ici, nous, dans un deuxième début de canicule, 15 jours après la première du mois de mai, et donc les migrants dus au changement climatique, de toute façon, vont être de plus en plus nombreux. Donc, on n'en sortira pas. Sauf à accueillir les gens dignement. Voilà. Sinon, de toute façon, c'est voué à l'échec. Donc, on approche du terme de l'émission. Moi, je voulais vous faire part d'un petit article qui est toujours tiré de la chronique, la dernière chronique. Donc, encore une fois, on vous dit, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chronique d'Amnesty International. Vous avez la fiche d'abonnement sur le site amnesty.fr. Et ça concerne une info que moi, j'ignorais complètement. Alors, ça s'est passé le 11 avril dernier. Ça s'est passé au Nigeria, à Djili, qui est un village niché dans une plaine semi-désertique. Et comme chaque samedi, son marché, renommé, attire les habitants qui viennent de très loin s'approvisionner en denrées alimentaires et en carburant. Et donc, ce 11 avril, 3 avions de l'armée lancent une frappe sur le marché bondé. L'attaque a fait au moins 100 morts et des dizaines de blessés, selon Amnesty International Nigeria. Des sources locales parlent, elles, de près de 200 tués. L'armée nigériane affirme avoir visé des membres du groupe armé islamiste Boko Haram, qu'elle combat depuis 2009. D'après les témoins et Amnesty International Nigeria, les victimes sont cependant très majoritairement des civils, dont des enfants. Christopher Musa, le ministre de la Défense, n'a pas nié le carnage de Djili. Au contraire, il a désigné les civils comme des cibles légitimes. Désormais, notre nouvelle stratégie, dit-il, est que l'ami d'un voleur est un voleur. Quiconque commerce avec des terroristes sera traité comme un terroriste, a-t-il déclaré peu après la frappe, avant d'ajouter sur le réseau social X que personne dans cette zone n'est innocent, personne. Donc effectivement, on tue des enfants en disant que les enfants ne sont pas innocents. On n'en sortira jamais dans le sordide. Hein. Cette doctrine porte en germe de nouvelles attaques contre les civils, alors que la lutte contre divers groupes d'insurgés s'intensifie. Selon Amnesty International, une frappe aérienne a tué 64 civils en décembre 2022, 40 éleveurs en janvier 2023 et 120 personnes lors d'un rassemblement religieux en décembre de la même année, une erreur d'identification pour une fois reconnue par l'armée. Voilà, donc ça se passe au Nigeria, c'est de nos jours, effectivement, et bizarrement, là non plus, les médias mainstream, comme on dit, les grands médias, j'ai pas vu grand-chose là-dessus, effectivement, non. Dans les grands médias. Alors ce qui est absolument hallucinant, je vous répète cette déclaration du ministre de la Défense nigérien, les terroristes, quiconque commerce avec les terroristes nigériens, quiconque commerce avec les terroristes sera traité comme tel, puisqu'il est l'ami d'un voleur et que l'ami d'un voleur est un voleur, et que personne n'est innocent, personne, et ça concerne aussi les enfants. Franchement, ce type-là, je sais pas, mais
les mots
pour les qualifier.
Ça fait quand même penser à la politique, notamment d'Israël, quand elle bombarde Gaza et que ce sont les populations civiles qui prennent parce qu'ils veulent virer les milices Hezbollah. Et puis ce qui se passe au Liban, c'est exactement la même chose. Ce sont les populations civiles qui sont déplacées, qui sont exterminées. Voilà. Ce sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité,
oui, effectivement.
Voilà. Il est temps de les dénoncer.
Et quand c'est par exemple des crimes qui sont commis par les autorités israéliennes, comme tu disais, Carlise, en Gaza et au Liban, faut se souvenir quand même que l'État d'Israël a été fondé après la Shoah pour mettre à l'abri les populations civiles juives, au moins en partie. Et que donc, effectivement, qu'un État... Encore une fois, il ne faut pas confondre l'État d'Israël et la population israélienne et la population juive. Ce sont deux entités complètement différentes. Ouais. Mais l'État israélien qui se livre à ça montre qu'il n'a rien compris à l'histoire. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, donc, actualité locale, nous, on se retrouve pour la dernière émission de la saison, bien sûr, puisqu'on sera de retour à l'antenne au mois de septembre, de la saison, le mardi 30, le dernier jour du mois de juin. On salue notre ami du laboratoire qui vient d'arriver.
Il va prendre
l'antenne de notre suite. Effectivement, bah oui, il fait chaud dans le studio. Hein. On vous disait deuxième canicule après celle du mois de mai. Deuxième canicule 15 jours après. Et le changement climatique, d'après Donald Trump, ça n'existe pas. Hein. Donc je ne sais pas. Mais enfin bon.
Il ne faut pas lui mettre de petites bouteilles d'eau au sommet des viands.
C'est ça. Et donc on vous rappelle aussi notre actualité locale. Bah, c'est le dimanche 28, donc deux jours avant la dernière émission de radio. Le dimanche 28, on vous rappelle qu'on fait la foire aux livres. Et que donc, venez nous soutenir, venez acheter des livres à un prix très très modique, des livres qu'on vend, qui nous sont donnés par le public, et qui permettent aussi d'agir pour les droits humains avec nous, et de nous financer. C'est important.
Donc, voilà. Donc ce sera à l'espace Saint-Léger, à Évreux, sur le parking, et on accueille le public à partir de 9h30 jusque vers 17h, 17h30.
C'est voilà. Ça.
Et vous pouvez venir nous aider, mais si vous arrivez plus tôt, c'est pour porter des caisses.
C'est pour porter des caisses. Bon, enfin, les gens qui viennent avant nous pour nous aider pour porter les caisses, on leur offre quand même un café.
On leur offre des livres.
Voilà.
Et ceux qui viennent toute la journée, on leur offre leur repas.
C'est ça, exactement. Mais on a déjà toute une liste de gens qui vont venir, mais ça n'empêche que plus on est de fous, plus le travail se fait vite. Et plus on est de fous, plus on rit aussi. Donc voilà, c'est ça. C'est ça le but. Donc c'est le dimanche 28, notre foire aux livres à Noël, à l'espace Saint-Léger, sur le parking devant notre local. Voilà. On va dire bonsoir aux auditeurs et aux auditrices.
Attends, t'es en avance.
Ben 57.
Je crois pas, Manu.
Mais ça permettra à Manu de s'installer tranquillement. Voilà, lui qui râle très gentiment après nous, des fois, quand on est un peu en retard. Donc, pour rendre l'antenne. Donc, voilà, on va rendre l'antenne, effectivement. Et puis, on se retrouve, nous, le mardi 30 juin, pour la prochaine émission d'Amnesty sur l'antenne de Principe Actif. On rappelle quand même, juste avant de finir, notre adresse mail, evreux@amnestyfrance, tout attaché. evreuxamnestyfrance.fr et aussi on vous rappelle qu'on a plein de podcasts d'émissions sur le site de la radio principeactif.net dans la rubrique Amnesty International. Donc n'hésitez pas à nous réécouter ou à nous écouter si vous avez raté l'émission. Voilà, on rend l'antenne, on vous dit à très bientôt.
À bientôt.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.